Benoît Melançon, Sévigny Internet, remarques sur le courrier électronique et la lettre, réédition numérique augmentée, chez Delbusso Éditeur et Numérique Livre. Depuis le milieu des années 1990, il y a eu changement d'échelle, plus de courriels pour plus de gens, sur plus de supports, de plus en plus puissants et conviviaux, analysés par plus de spécialistes. Mais y a-t-il eu un changement de nature? Non. La lettre, parce qu'elle est d'abord un objet, peut être investie d'un affect fort, voire devenir un fétiche représentant le corps de l'autre. Prenez le film « The Shop Around the Corner » d'Ernst Lubitsch en 1940. Alfred Kralik, joué par James Stewart, attend une lettre. « Mon cœur tremblait quand je suis entré au bureau de poste et tu étais là, couché dans la boîte 237. Je t'ai sorti de ton enveloppe et je t'ai lu sur le champ. » La superposition de l'image de la signataire de la lettre, Clara Novak, interprétée par Margaret Sullivan, et de ce qu'elle a envoyé à l'être aimé, dit la même chose en image. « Voici mon corps, touche-le !» Le courriel ne peut pas cela. Source de plaisir, la lettre fait aussi naître la souffrance. L'absence de courrier est lourde de menaces. Ne pas répondre à l'autre, c'est évoquer le spectre d'un silence définitif. Le passé, aisément idéalisé, n'est plus. Le présent est l'espace de l'attente, donc de la souffrance. Le futur est incertain. Depuis la nuit des temps, pour faire bref, les diverses strates temporelles ont été la matière première des épistoliers. Rien de tel avec les communications interpersonnelles numériques, ce que Philippe Solers appelle en 2002 notre froide comédie informatique, cette négation du temps intérieur. Le temps y est un rouleau compresseur, un flux de messages chasse l'autre. C'est vrai du courriel, et ce l'est encore bien plus de Facebook, de Twitter, du clavardage et des textos. Du passé, mais aussi du présent, faisons table rase. Si la mémoire peut faire naître la douleur, oublions, ne laissons plus de traces, avançons. Rien de plus banal, épistolairement, que de se peindre en train d'écrire une lettre. Mon autoportrait te rappellera que je ne suis pas là, voilà pourquoi je dois t'écrire. La chose était possible par courriel, mais rare. Elle l'est bien plus encore par texto ou par Twitter, là où les signes nous sont comptés. Quand on a 140 caractères pour dire quelque chose, on ne les gaspille pas à se mettre en scène. Nos lecteurs, une poignée ou une masse informe, ont choisi de nous lire. Mais la plupart du temps, ils ne lisent pas que nous. Nous devons leur dire, tout de suite, ce que nous avons à leur dire. Dans une seconde, il sera trop tard. Dans une seconde, ils seront ailleurs. Et nous aussi, avec ou sans eux. Tout dans la lettre est affaire de choix. Du papier, de l'encre ou du clavier, du rapport au temps, de la mise en scène de soi. Ce choix est tendu vers une figure, celle du destinataire. Sauf exception, on n'écrit pas un roman, un conte, une pièce de théâtre, un recueil d'essais pour une seule personne, que l'on connaît de près ou de loin. En matière d'épistolarité, c'est précisément l'inverse. Cette interlocution directe est le propre de la lettre. Encore possible dans le courriel, par les textos et sur Facebook, le rapport à un destinataire et à un seul est précisément ce que rend volontairement complexe un service comme Twitter. Que ce soit à cause de la nature du média ou de ses potentialités, peu importe. Les utilisateurs du numérique vivent au croisement de multiples communautés et ils risquent de ne plus jamais être seuls au monde. Dès lors, on ne s'étonnera pas de la présence aussi forte dans l'imaginaire des technologies numériques de la figure du tiers indiscret. La fiction épistolaire classique est effrayante de lettres volées, interceptées, soustraites. La possibilité, réelle ou fantasmée, d'une surveillance mondialisée des communications numériques prend donc appui sur un des lieux communs les plus forts de la tradition de la correspondance, même si, dorénavant, la technique est passée au premier plan. Le lecteur imprévu de jadis n'avait pas besoin d'appareils complexes pour lire ce qu'il ne devait pas lire. Aujourd'hui, quand circulent aussi massivement texte, images et sons, dont la voix, aucun humain n'y arriverait seul, si tant est qu'on puisse y arriver à plusieurs. On peut aussi se poser une autre question que celle de la nature des moyens d'expression de soi à destination d'un interlocuteur. Le courriel, dont on disait qu'il allait remplacer la lettre traditionnelle, l'a-t-il fait? Non.